Adesso chiudiamo la prima fase con l'intervento di Jean Réveillon, che è qui come direttore generale della UER e che ha quindi una voce pienamente cosciente, mi suggerisce Bruno, e autorevole per chiudere questo primo giro di interventi. Jean Réveillon.
Merci beaucoup. Écoutez, c'est un grand honneur que de me faire conclure. Vous avez vu, j'ai déplacé le micro parce qu'en fait, je n'avais pas prévu de venir. C'était très difficile dans mon agenda. Il s'est trouvé que le dernier stade de cet agenda, c'était la négociation, la signature du contrat de l'UEFA pour l'Eurofoot 2012, quelque chose de très important. Il a pu se faire hier, donc à l'initiative de notre ami Giacomo Mazzone, que vous connaissez tous et qui est ma tête chercheuse. Il m'a dit, il y a là-bas un débat formidable qu'il ne faut surtout pas manquer. Et j'ai effectivement, je vous remercie de m'avoir accueilli, parce que j'ai ce matin beaucoup apprécié les propos de vous tous qui me confortent, hein, tout à fait dans la perception des problèmes, mais aussi des solutions que nous pouvons apporter à l'évolution de notre audiovisuel de service public. Un mot sur ce contrat de l'UEFA, pourquoi ? Parce que c'est très important, justement, l'Eurofoot, vous savez sa résonance, hein, notamment ici en Italie, que nous puissions continuer à diffuser gratuitement ces grands événements sportifs pour l'ensemble du public. C'est une des missions, je crois, du service public. Alors, vous allez me permettre, parce que effectivement, j'ai bien senti que l'UER était assez présent dans vos propos, mais que néanmoins, on pouvait imaginer des solutions originales, nouvelles, etc. Donc il me paraît important à ce stade de resituer en quelques phrases ce qu'est l'UER, et puis vous donner ensuite mon sentiment sur la position aujourd'hui de l'audiovisuel public. Cette UER, bien qu'elle ait son siège dans un pays extra-communautaire, la Suisse, qui est une particularité, vous savez bien, est très attentif à l'évolution européenne. Il y aura 60 ans l'an prochain que cette UER a été créée, donc bien avant la fameuse communauté européenne du charbon et de l'acier, ou avant l'Euratom. Et là aussi, c'était chez les gens de télévision une vision de père fondateur qui voyait finalement déjà l'Europe unis au-delà des frontières et des barrières naturelles dans notre domaine de la radio et de la télévision. Et l'idée de départ était qu'au-delà de toutes les difficultés, de toutes les querelles, hein, encore lourdes peut-être à cette époque, on était donc juste dans le début des années 50, ben il y avait la possibilité de transporter ces signaux de télévision d'une partie à l'autre de l'Europe, ben, en traversant les mers et les montagnes, en quelque sorte une internationale, en tout cas européenne à cette époque-là, il l'est devenu depuis des images. Alors, je crois qu'il faut que nous précisions que depuis lors, 60 ans, l'UER finalement n'a fait que continuer dans cette direction qui au départ était technique, hein, et je crois qu'il est important de souligner que beaucoup des images que nous, les Européens, nous partageons dans notre mémoire collective ont été distribuées ou rendues possibles par l'UER et par son bras opérationnel qui s'appelle l'Eurovision. Hein, qui ne connaît pas l'Eurovision Song Contest, évidemment le concours Eurovision de la chanson, même si l'Italie est le seul pays à ne pas le diffuser pour des raisons objectives qui tiennent à d'autres événements du même genre ici dans le pays, mais cette Eurovision qui fait battre depuis 50 ans le cœur de 125 millions de téléspectateurs en même temps réunis cette année le même soir. Alors je ne vais pas rappeler les Jeux sans frontières, encore que ça nous a aidé à dépasser les barrières linguistiques à l'époque, et peut-être il est bon que vous sachiez aussi que 90% des sports non nationaux passent sur les réseaux de l'Eurovision et même circulent maintenant par notre intermédiaire dans le reste du monde, comme la Coupe des Champions, l'Eurofoot, je viens d'en parler, les meetings d'athlétisme, la Formule 1 et le Tour de France. Et on a peut-être oublié, parce que ça n'est pas souvent rappelé, que Euronews, vous en parliez tout à l'heure, et Eurosport, vous en parliez aussi, sont nés de deux consortiums européens créés dans le cœur de l'UER. Et puis, les images des journaux télévisés, nous considérons que 80% des images qui circulent sur l'Europe dans les journaux télévisés sont de provenance Eurovision et passent par nos réseaux. Arte la télévision culturelle européenne, ainsi que TV5, BBC World Service et beaucoup d'autres, sont membres de l'Eurovision et accèdent au matériel fourni par les EVN, les échanges qui sont les échanges de news européennes, un modèle qui a d'ailleurs été copié en Asie, Asia Vision, ou dans les pays arabes plus récemment, l'Asbu Vision et ailleurs. Je crois qu'il faut souligner que lorsque nous parlons d'Europe à l'UER, nous avons même une conception plus large que celle évidemment normalement entendue. C'est l'Europe au sens très large, plus large que celle des 27 pays de l'Union. Une Europe qui va même au-delà de l'Europe continentale, car selon la définition de la zone européenne de radiodiffusion qui était en existence à l'époque où nous avons créé l'UER, il y a l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, dont les pays sont membres actifs de l'UER. Donc, tout cela pour vous dire, et j'en arrête là avec le récit des actions de l'UER, que nous sommes bien placés, je crois, historiquement pour parler de ces questions d'évolution et en quelque sorte pour marquer une forme de priorité en la matière, ce que d'aucuns d'entre vous ont d'ailleurs relevé. Car aujourd'hui, il est donc question, en partant du principe que le traité de Lisbonne sera approuvé, que des services d'intérêt général puissent naître à l'échelle européenne, en maintenant leurs caractéristiques d'autonomie et d'indépendance. Mais je crois que la vraie question est pourquoi faire et surtout comment le faire. C'est celle que nous nous posons. Alors, en vous écoutant ce matin, j'ai bien compris, et j'en suis soulagé, que l'on ne répétera pas ce que l'on peut considérer comme des cauchemars, Europa TV ou Euricon. Bon, c'est très loin, et nous avons tous bien appris de nos erreurs du passé. Avant de venir sur ce que nous pourrions faire, je voudrais peut-être vous dire que, bon, j'ai bien compris que vous étiez tous des soutiens du service public, mais qu'en même temps, beaucoup d'entre vous manifestent une vraie crainte quant à l'avenir de cet audiovisuel de service public. Je ne partage pas véritablement cette crainte. Je suis un optimiste de nature, mais je constate, au-delà de ce côté personnel, qu'il y a de plus en plus, et j'y crois beaucoup, de capacité de l'opinion publique à concevoir l'importance de ce service public. Et je crois que l'agenda de Lisbonne parlait de cette société du savoir. Je crois que, et Internet y contribue largement, la perception est de plus en plus ouverte dans l'opinion sur les réelles valeurs qu'apporte l'audiovisuel public, qu'il apporte aujourd'hui par les médias traditionnels et qu'il doit apporter demain, et c'est très important d'en convaincre tout le monde, par les nouveaux médias. Il est tout à fait clair que ces valeurs, on les connaît tous, mais Alessandra Paradisi, qui elle est partie malheureusement, mais qui fait un gros boulot au sein de la COPEAM pour faire avancer toutes ces idées, le disait dans son introduction. Je crois que ces valeurs telles qu'effectivement la cohésion sociale, le pluralisme aussi de l'information, qui doit d'ailleurs, et Madame Klinkiewicz le disait, qui doit d'ailleurs être peut-être maintenant recensée d'une manière nouvelle avec l'apport des nouveaux médias, et le service public a un grand rôle à jouer dans ce rôle de filtre, que la diversité, la création originale, donc la diversité culturelle, qui est le fait particulier des services publics, et que l'UNESCO, Dieu merci, a reconnu et à qui elle a donné une base juridique, en quelque sorte, en disant que les services publics doivent être porteurs de cette diversité culturelle. Vous savez, cette charte signée par la grande majorité des pays du monde maintenant. Je crois que même la protection de la dignité humaine, la protection de la jeunesse, sont davantage, par nature, du rôle des services publics que du rôle des chaînes privées. On ne peut pas demander à ces chaînes commerciales d'être attentives en permanence à toutes ces valeurs dans leurs programmes. Alors pour autant, nous sommes totalement à l'UER pour un système dual, parce que je pense qu'au contraire, il y a à prendre de cette concurrence, de cette compétition, mais je crois que le service public et reste fort aujourd'hui. Alors il est attaqué, ça c'est clair, il est attaqué de partout. J'ai, la semaine dernière, devant mon comité exécutif, fait un état des lieux de nos différents membres, et il apparaît qu'il y a que les pressions politique, que l'indépendance est en cause dans de nombreux pays, que le financement, bien sûr, est en cause lui aussi dans de très nombreuses situations. Et vous savez bien, madame, quelle est la difficile situation de la télévision publique polonaise ces temps-ci avec cette réforme en cours, parce qu'on détruit la redevance. Alors un mot sur la redevance, et là je m'adresserai à monsieur Hasbrink en disant que oui, bravo au modèle allemand de redevance, le modèle BBC est très fort lui aussi, mais moi je considère que la KEF, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est un groupe de professionnels chargés d'établir le niveau de redevance en Allemagne, est une bénédiction pour le service public allemand, ce qui lui permet effectivement de rester fort et puissant, même s'il a des difficultés pour l'introduction dans les nouveaux médias. Vous l'avez expliqué, mais je crois qu'on y trouve un équilibre en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de pression pour limiter son action. Cette KEF est très intéressante parce que ça évite aux hommes politiques d'être en première ligne de ces augmentations de la redevance. Si la redevance n'a pas bougé en France depuis tout ce temps, si elle est à 116 euros, et en Italie, je ne connais pas très très bien le contexte précisément, mais elle est aussi dans ses plus bas encore, je crois, et c'est pas normal. Il faut que la redevance permette, vous comprenez, aux citoyens véritablement de s'approprier leur chaîne publique et en même temps d'être indépendants, ces chaînes indépendantes des pouvoirs. Donc toutes ces histoires de subventions directes, etc., des gouvernements, bien sûr que dans certains cas c'est nécessaire pour que le service public vive, mais il faut en sortir le plus vite possible. Et je crois que la redevance est le seul outil. Alors c'est difficile évidemment de promouvoir l'augmentation de la redevance en ces périodes de crise, mais je crois que pour autant il ne faut pas abandonner ce combat. Donc, d'une manière générale, je reste optimiste. Et vous savez, il y a un constat que nous faisons. Il y a 2 ans, pour la première fois depuis une dizaine d'années, l'audience générale... On n'aime pas parler d'audience, mais c'est quand même important de regarder quel est l'apport, le regard porté par les téléspectateurs sur les chaînes publiques. Mais l'audience générale en Europe avait frémi et légèrement remonté. Alors ça n'a pas duré, parce qu'il y a maintenant dans un certain nombre de pays la fragmentation, l'éclatement lié à l'arrivée de nouvelles chaînes sur notamment la télévision numérique terrestre, hein, et c'est le cas. Mais je pense, et ça se produit en France, que là aussi, dans cet éclatement, eh bien, les services publics sont mieux à même, vous verrez, de résister à cette nouvelle donne de répartition totale, évidemment, vu le nombre de chaînes qui vont maintenant être accessibles gratuitement et par le numérique. Alors le numérique est une chance qu'il faut aussi saisir, mais en tout, évidemment, est lié à ces questions de financement qu'il faut donc toujours renforcer. Et encore une fois, je crois que la redevance, bon, voire la publicité maîtrisée, je dirais, dans d'autres circonstances, sont absolument nécessaires, en tout cas, pour que les chaînes publiques aient les moyens d'agir. Alors, pour en terminer et en venir aux propos qui nous réunit aujourd'hui, donc, ne pas répéter les erreurs du passé, avoir effectivement une réflexion sur la manière dont on s'y prend. J'étais très intéressé, Monsieur Schlinger, par l'idée des formats. Nous avons ouvert à l'UER, depuis 3 ans maintenant, une bourse des formats pour que nous puissions échanger les bonnes idées en matière de formats de télévision, voire de radio, plutôt que d'aller les acheter à vil prix sur les marchés pour les adapter. Il y a des formats de télévision publique, donc porteurs des valeurs qui sont adaptables d'un pays à l'autre. On y travaille beaucoup. Mais pour reprendre ce qu'a dit, ou plutôt ce que n'a pas dit Pierre Musso, parce que c'est dans la partie qu'il a gommé de son propos, je crois, compte tenu de l'horaire, et je l'ai vu dans votre texte, Pierre, vous disiez, bon, la création d'une infrastructure européenne d'échange de programmes n'est pas simple, car vous écriviez, les goûts des publics demeurent nationaux et régionaux avant tout, et que la diversité linguistique et culturelle est une réalité profonde de l'Europe et qu'il nous faut défendre. Mais néanmoins, il y a des idées à creuser, celles, par exemple, que Monsieur Riccieri évoquait, cette idée de produits semi-finis, hein, pourquoi pas, avec les évolutions, avec les capacités maintenant d'adaptation linguistique, parce que ça reste un gros problème quand même, hein, aux produits. Il y a une idée à creuser. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que l'UER, vous savez, on ne parle finalement pas beaucoup de l'UER parce que nous n'avons pas une une volonté de communication forte. Nous laissons la parole à nos membres par nature. Hein. Demain, vous trouverez dans la presse probablement que tel et tel pays ont signé avec l'UEFA l'accord qui leur permettra de retransmettre les Jeux Olympiques. Ce sera peut-être via l'UER, mais bon, notre propos n'est pas de communiquer. Mais nous sommes là et bien là. Un détail, nous avons revu notre gouvernance et notre organisation récemment pour l'adapter à ce monde moderne. Nous avons maintenant 11 membres du Conseil, ce qu'on appelle notre executive board, et il y a les 7 CIO ou directeurs généraux ou présidents des 7 présidents sur 11 qui sont présents à ce board. C'est-à-dire qu'il y a une perception de la nécessité d'être collectif maintenant qui est réelle au sein de l'UER. Et pour terminer, répondre à une des questions fondamentales aussi posées par M. Riquéry sur, et d'autres ici, sur notre relation avec l'Europe, M. Kadima en a parlé aussi, je crois que il faut que vous sachiez que nous faisons déjà beaucoup d'efforts. C'est difficile, la construction européenne. Nous engageons nos membres à être extrêmement présents. Alors, il y a un moment particulier qui est celui des élections européennes, hein, qui s'est produit il n'y a pas très longtemps. On a beaucoup travaillé en amont avec les directeurs de l'info, des chaînes, avec les directeurs des chaînes parlementaires. Il existe un certain nombre de chaînes parlementaires. Ils étaient présents dans ces discussions pour tenter de mettre en scène beaucoup mieux ces élections européennes pour donner de l'appétit au public sur ces questions européennes, donc avant évidemment les élections et le soir même des élections. Résultat moyen, il faut le dire, hein, moyen. J'ai rendez-vous, Madame Wallström, qui est actuellement en charge de la communication auprès de Monsieur Barroso, mais bon, dont la commission qui est en finissante, vous le savez, mais qui va être bientôt renouvelée, Monsieur Barroso l'ayant été. J'ai discuté, Madame Wallström nous a remercié pour cet effort et demandé de le perpétuer. Je la rencontre la semaine, dans une quinzaine de jours, je pense, avec mes collaborateurs, pour avancer sur ces dossiers. Nous sommes présents. Il y a sans doute mieux à faire encore de ce côté-là. Nous essayons, quelqu'un parle de redéfinition des missions de service public. Je crois qu'effectivement, c'est important d'y consacrer. J'étais il y a trois semaines, à l'UNESCO, c'est un exemple, pour rassembler avec les autres unions, parce qu'il y a des unions sœurs, il y en a 7 dans le monde, pour rassembler nos intentions sur le global warming. Comment peut-on alerter d'une manière efficace les populations et les informer surtout de manière juste pour qu'il n'y ait pas d'excès, d'affolement, mais qu'on prenne vraiment conscience, et notamment qu'on donne un l'écho très large à Copenhague, mais bien au-delà de Copenhague, que nous entamions tout un processus de communication dans les années à venir. Et nous sommes arrivés à un accord, qu'il s'agissait là effectivement d'une mission de service public. Vous savez, il y a eu des débats, parce qu'on n'aime pas être guidé par les institutions. La liberté éditoriale est toujours au cœur de nos préoccupations, et notamment certains pays la valident avec beaucoup d'attention, notamment du côté outre-Manche, si je puis dire. Et ils ont raison, évidemment. Mais nous avons quand même convenu qu'une mission de service public était de globalement dans le monde de s'attaquer à ce problème du global warming. Et je crois que la construction européenne est effectivement une autre mission de service public à laquelle nous allons prendre attention. Et je vais, moi, quitter mon poste dans quelques mois. J'en ai terminé avec mon mandat formidable, mais je passe néanmoins le relais à Madame Deltendre, qui est la CEO de la télévision suisse-allemande actuellement, et qui va s'intéresser, et je serai très attentif, à lui transmettre le flambeau sur ces questions, moi-même retournant à mon origine française et tentant d'aider la télévision publique française et la radio à améliorer leur position, qui, pour être correcte en matière d'audience, n'en est pas si simple pour autant, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Voilà, je vous remercie, messieurs.
Merci à Jean Réveillon, qui ci a dato una notizia, quella de una sorta di servizio pubblico universale per i problemi del clima, e che ha anche avuto il coraggio, non si sente mai, un inno a una tassa così forte, l'inno al canone di Jean Réveillon, in un'epoca in cui quando si parla di tasse soltanto per maledirle o rifiutarle è stato molto forte. Poi c'è una cosa che non ho capito di tutto. Il clima del dibattito di oggi è stata evocata anche da Réveillon, poi magari ne capirò le ragioni. Ci sono certe parole che diventano proibite nel contesto in cui dovrebbero essere proprie. Cioè la parola federalista è diventata proibita in contesto europeo. Cioè uno si deve scusare di essere federalista quando si parla di Europa Unita. E mi pare che la parola audience sia pochissimo popolare fra voi che vi occupate di televisione. Eppure dovrebbe essere materia costante delle vostre preoccupazioni, ma la dite quasi con una sorta di pudore nel trattarla. Vabbè, comunque avremo ancora modo magari di parlare.